Bonjour à tous, vous écoutez Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genêt. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Françoise Lesage. Alors Françoise Lesage, nonne zen Soto, était anciennement une enseignante dans les zones d'éducation prioritaire et aujourd'hui partage avec une humanité rare son expérience de nonne zen infiltrée en toute discrétion depuis plus de 40 ans dans la jungle de nos sociétés contemporaines. Bonjour Françoise.
Bonjour Myriam et bonjour à tous.
Alors, expliquez-nous un petit peu votre pour compléter cette présentation, pourquoi infiltrer en toute discrétion dans la jungle de nos sociétés contemporaines? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire par là que le fait que je sois nonne, et j'y suis depuis 40-45 ans, je ne l'ai jamais dit. Même dans ma famille, ça n'a pas été su tout de suite. Parce que je pense que c'est l'engagement sur une voie vers les autres, avoir une influence positive sur la société moderne sans mettre une étiquette. Parce que sinon, les gens jugent, ah ben oui, ça c'est de la religion, ça c'est de la spiritualité, c'est pas pour moi. Non, je voulais que les gens, ils aient en face d'eux une personne qui authentiquement vivait sa voie, son engagement, mais sans l'afficher. Et comme ça dérange pas les gens. Ils ont juste un être humain en face d'eux qui vit le mieux possible sa qualité d'être humain.
Alors, on pourrait avoir aussi une petite précision. Qu'est-ce que c'est qu'être non zen Soto?
Oh, être non. Donc le zen Soto, c'est une des branches du bouddhisme hein, qui vient de la Chine, de l'Inde, etc. Ça vient du Bouddha. C'est un engagement personnel. En fait, on pratique Zazen, qui est l'essentiel de la pratique du Zen Soto, c'est-à-dire une assise dans une position particulière qui permet au corps de retrouver un équilibre normal, sans être sans arrêt sollicité par les muscles du mouvement, par les sollicitations extérieures. Et ça amène à avoir vis-à-vis de la vie une position calme parce que l'esprit, dans ce corps calme, est moins sujet à s'agiter dans tous les sens et à réagir à la moindre, je dirais, provocation de la vie. Donc ça, c'est l'engagement dans la voie du zen. Et puis, en fait, ça nous apporte tellement qu'un jour, on a envie de rendre à la communauté qui nous a enseigné notre énergie pour pouvoir à notre tour le partager avec les autres. Donc pour moi, être nonne, c'est ça, c'est redonner au monde ce que j'ai reçu dans cette pratique.
Alors Françoise, nous allons maintenant nous intéresser à votre parcours de vie, parce que je pense que vous avez commencé très tôt, en 1978, plus précisément,
oui,
la pratique de Zazen, sous la direction d'un disciple de Maître Deshimaru. Comment vous vous êtes mis en route sur cette voie du bouddhisme, sur cette voie du Zazen?
Alors, j'étais enseignante et puis j'ai épousé l'homme de mes 16 ans, l'homme de mon amour de 16 ans. Et on avait envie d'avoir une famille. On a eu très vite 4 enfants. Et 4 enfants, le corps, il accuse les choses, hein. Et j'avais un corps un peu fatigué, qui se reconnaissait plus très bien. Et je savais pas quoi en faire. Et je me suis inscrite à un cours de yoga. Et pour respirer, pas pour obliger mon corps à faire des performances, mais pour lui apprendre simplement à être lui-même. Et puis, il se trouve que l'été suivant, le professeur de yoga rencontre Maître Deshimaru. Et quand il revient, il dit, il faut que je vous fasse partager ce que j'ai trouvé. On a été 4 ou 5 à être enthousiastes. Et c'est comme ça qu'a commencé pour moi la pratique de Zazen. Et donc, j'ai trouvé, et ça, c'est vraiment pour moi, ça a été fabuleux. J'avais une vie professionnelle importante. J'avais 4 enfants, une maison à tenir, enfin, et tout ce que j'enlevais de temps pour pratiquer et mon yoga et le zazen, environ 3-4 heures par semaine, ça ne m'empêchait pas de vivre, ça me donnait de la liberté. En fait, ça donnait du goût du goût aux instants où j'avais rien à faire parce que j'étais pas coupable de rien faire. C'était normal, ça nourrissait ma vie. Donc c'est ça ma pratique de zazen. En fait, c'est dans la rigueur de cette pratique, dans la régularité, en fait, on trouve la liberté du temps, la liberté d'être soi. Et ça, moi, je trouve ça fabuleux. Et 45 ans après, c'est toujours pareil, si ce n'est plus.
Donc c'est quand même quelque chose qui paraît, on pourrait passer dessus, l'air de rien, ça paraît anodin, mais c'est tellement essentiel ce que vous dites, c'est-à-dire que on peut ne rien faire et ne pas se sentir coupable. C'est à contresens de notre
Eh
société
ben,
actuelle.
je vais dire une anecdote, hein. Une des premières fois où je suis allée au temple de la Gendronnière, hein, dans la région de Blois. Donc j'avais tout organisé la vie de famille pour que ça se passe bien pendant mon absence de quelques jours. Et j'arrive pour la première fois dans ce temple et le fonctionnement, il est que pour faire la vaisselle, la cuisine, pour faire différentes tâches nécessaires à la communauté, on lève la main pour se donner volontaire. Résultat, quand on n'a pas levé la main, on peut aller s'asseoir sur la pelouse pendant qu'il y en a d'autres qui travaillent, savourer son café en toute liberté, sans aucune culpabilité. Parce qu'à un autre moment, on va la faire la tâche. Mais là, ce moment-là, il est vraiment délicieux. Il n'y a pas de culpabilité, il y a juste on est assis, on prend l'air, on est avec des gens autour de soi, on ne vous demande rien de particulier et on a le temps d'être ce qu'on est. Voilà, c'est ça la pratique de zazen. Quand tu travailles, tu es complètement dans la tâche, dans l'instant, tu ne penses pas à autre chose et tu la fais bien jusqu'au bout. Et quand le travail est fini, eh ben il est fini. Et puis voilà, on passe à autre chose et on a ce temps de passage à autre chose qui est très très important. Ça me fait penser à la respiration. Il y a l'inspire. Il y a l'expire. Et il y a une chose qu'on oublie, c'est que entre inspire et expire, il y a un petit temps de pause, une petite apnée dont on ne s'aperçoit pas. Et entre expire et de nouveau inspire, il y a un petit temps d'apnée aussi dont on ne s'aperçoit pas. Dans le yoga, on a vraiment l'habitude de travailler ces petits temps intermédiaires. Mais c'est dans ces moments-là qui ne sont ni inspire ni expire, ni activité ni repos, c'est dans cet entretemps-là qu'est la vraie vie. Que tout sort de la source, que tout peut naître et que tout peut redisparaître. Et je pense que Zazen, c'est vraiment ça, c'est arriver à mettre de la vie dans ces temps d'apnée où tout devient possible. On dit souvent dans le Zen Soto, on passe des phénomènes à la vacuité, de la vacuité au phénomène, mais c'est presque trop précis. Ce qui est important, c'est le passage. On passe de A. Comme la pratique de la méditation, de la concentration, c'est pas pour obtenir un résultat. Le simple fait de pratiquer, de se concentrer sur soi, de se sentir respirer au diapason de la vie autour de soi, cet effort-là, il est la pratique. Il n'y a pas de résultat à attendre. C'est de marcher qui fait qu'on avance. C'est pas d'arriver quelque part.
Alors, j'aimerais aussi revenir sur Taizen Deshimaru. Vous l'avez rencontré?
Eh ben, très physiquement, je ne l'ai pas rencontré. Chaque fois que je suis allée à Paris, il était ailleurs. Il était au Japon, il était à des endroits où il avait des rendez-vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie de cet homme, elle était telle, elle était tellement imprégnée dans ses disciples qu'on la ressentait. Et que on s'échangeait pas mal d'enregistrements. Alors à l'époque, c'était des cassettes vidéo, là, hein. Et moi, sa présence, je l'ai. C'était un homme. Voyez, à travers ses propres disciples, il m'en a imposé. Il m'en a imposé. Il m'a assise par terre, quoi. C'est vraiment, j'allais dire, il m'a mis le cul par terre par rapport à la vie agitée que j'avais. Et il a fait se renverser les priorités. La priorité dans la vie, je vais encore dire, c'est pas le résultat, c'est d'être en route. Et ça, dans la façon qu'il avait de marcher, de parler. Il parlait pas français, il parlait une sorte d'anglais matiné de japonais, mais c'était tellement fort que je me souviens dans les enregistrements du moment, dans ce que ses disciples nous disaient, mais on le recevait complètement. Et voyez, aujourd'hui, plus de 50 ans après sa venue, il est mort en 82. Pour moi, il n'est pas mort, c'est toujours vivant, l'énergie, elle est toujours là. Et moi, je suis habitée de cette énergie-là. Et c'est passé à travers les gens qui me l'ont transmis par les mots. Mais la transmission, elle s'est pas faite par les mots.
Ah oui, et on sent l'importance, cette espèce de contagion, de diffusion qui émane d'une personne quand elle est vraiment dans juste et qui en fait se transmet de proche en proche.
C'est un peu pour ça que je vous disais que j'ai jamais dit que j'étais nonne. On savait que je pratiquais de la méditation. Mais si ce que je suis est pas suffisamment fort pour que les gens se rendent compte qu'ils ont en face d'eux quelque chose de pas si ordinaire que ça comme présence, ben c'est pas la peine d'être nonne. Donc c'est pas la peine de le dire. Le message y passe. Et c'est vrai que j'ai vécu dans des milieux donc difficiles, où il y avait beaucoup d'autres religions, hein, où il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des musulmans, il y avait de toutes sortes. Et essentiellement dans les milieux où j'ai travaillé à Trappes, j'ai rencontré des imams et ils savaient pas que j'étais nonne. Mais il y en a un qui est venu me dire: Ah, vous êtes là. À une rentrée de classe, il me dit: Ah, vous êtes là. Oh, ben, je peux partir, tout va bien se passer. Il y a quelque chose qui c'est pas moi particulièrement, mais à travers moi, cette présence du zen, cette ouverture aux autres, ce regard qui est large et qui faisait que je surveillais tout ce qui se passait autour de moi, auprès des enfants nouveaux, eh ben, ça tranquillise les gens. Donc, je pense que c'est ça. Tout à l'heure, vous me demandiez non-zen. Ben, non-zen, c'est ça. C'est être au-delà de soi-même. C'est pas Françoise Le Sage. Quelque part, c'est cette personne qui a reçu une transmission et qui s'efforce d'être transparente à ce qu'elle a reçu. Et du coup, c'est ça que les gens reçoivent. Ils reçoivent pas quelque chose de la part d'une individualité. Ils reçoivent plus grand, mais à travers moi.
Eh bien, merci Françoise. Nous allons faire la première pause musicale pour nous retrouver tout de suite après.